Merci d'écouter Radio France Internationale. Il est 10h en temps universel, midi à Paris.
Florent Guignard.
Bonjour. À la une de ce journal, les premières victimes des inondations annoncées en Europe centrale, 4 morts en Roumanie. Également au sommaire de ce journal, Kamala Harris en meeting en Pennsylvanie, un état clé de la présidentielle des États-Unis du 5 novembre prochain. Un scandale de violence physique et sexuelle en Malaisie, 400 victimes, elles ont entre 1 an et 17 ans. Et puis le Rassemblement national en France fait sa rentrée parlementaire aujourd'hui et veut s'afficher comme une opposition constructive. Dans 10 minutes après ce journal, vous retrouverez Écho d'ici, Écho d'ailleurs. L'Europe compte ses premiers morts provoqués par un épisode météo exceptionnel. Une tempête, des pluies et des inondations jamais vues depuis des décennies en Europe de l'Est, selon les prévisionnistes. 4 morts en Roumanie, le Premier ministre va se rendre sur place. En Pologne, en Autriche, en Slovaquie, en République tchèque, on est aussi en état d'alerte. Les autorités tchèques, par exemple, multiplient les messages d'alerte et de prévention. Correspondance à Prague d'Alexis Rosenzweig.
Sur la télévision publique tchèque, un présentateur rappelle les objets de première nécessité à prendre en cas d'évacuation. Plusieurs localités s'apprêtent à évacuer la population. En fonction de l'évolution de la situation, le pire est notamment attendu du côté des montagnes à la frontière polonaise, où jusqu'à 400 mm de précipitations pourraient tomber d'ici lundi. L'Elbe et la Vltava menacent notamment de déborder bientôt. À Prague, la Vltava devrait atteindre son niveau maximal dans la nuit de samedi à dimanche. Mais ce sont aussi les petites rivières qui représentent un grand risque, notamment dans la région de Bohême centrale, qui encercle la capitale et dont Petra Peckova est la présidente.
Toutes les communes doivent préparer un plan d'évacuation, la livraison de nourriture, d'eau potable, les hébergements de secours ainsi que des sources alternatives de courant électrique.
Des milliers de foyers étaient déjà privés d'électricité en ce début de week-end. Les chutes d'arbres provoquées par le vent qui s'ajoutent aux pluies torrentielles pourraient encore compliquer la situation pendant cette fin de semaine qui s'annonce longue et éprouvante, même si les autorités se disent mieux préparés que lors des crues catastrophiques de 1997 et 2002. Alexis Rosenzweig, Prague, RFI.
En Asie maintenant, en Birmanie, face au typhon Yagi, la junte militaire appelle à l'aide internationale. Et c'est exceptionnel pour ce régime isolationniste. 33 morts au moins en Birmanie dans des inondations et des glissements de terrain. Plus de 230 000 personnes déplacées. Au total, le passage du typhon Yagi dans plusieurs pays de la région a fait plus de 300 morts. Et puis à l'autre bout de la planète, cette fois c'est la sécheresse qui sévit au Brésil. Sécheresse historique qui entraîne un nombre presque incalculable d'incendies. Les deux tiers du territoire brésilien sont recouverts par la fumée des feux de forêt, avec des risques pour la santé des habitants. Pour le seul mois d'août, plus de 38 000 départs de feu ont été comptabilisés. Les autorités parlent d'une pandémie d'incendies forestiers. On reste en Amérique, à moins de 2 mois de la présidentielle du 5 novembre aux États-Unis. Les candidats battent la campagne dans les États clés comme la Pennsylvanie sur la côte est des États-Unis, où la vice-présidente et candidate démocrate Kamala Harris tenait hier soir un meeting. Reportage sur place de Guillaume Nodin.
C'est désormais un classique. Partout où elle passe, elle déplace les foules. Une fois encore, la salle est pleine dans la petite ville de Wilkes-Barre, ancien bastion industriel du nord-est de la Pennsylvanie, typiquement le genre d'endroit où Donald Trump fait de bons scores et où Kamala Harris doit lutter pied à pied.
Good evening, Pennsylvania.
Elle salue la Pennsylvanie et déroule un discours d'unité car elle a besoin de tout le monde face à un adversaire toujours aussi clivant.
Nous sommes prêts pour une direction de nouvelle génération qui soit optimiste sur ce que nous pouvons faire ensemble.
C'est pourquoi des démocrates, des républicains et des indépendants soutiennent notre campagne. Nous avons besoin d'un président des États-Unis qui travaille pour tous les Américains.
C'est ce que sont venus entendre ses supporters, parmi lesquels de nombreuses femmes, comme Patricia Curtis, qui résume son sentiment.
Heureuse et fière, parce que ça fait longtemps que ce pays est si divisé. Et avec tout ce que nous avons traversé entre le Covid, la haine et toute cette rhétorique, ça fait du bien d'être quelque part où les gens sont heureux. Ils voient les choses positivement maintenant. Ça n'arrivait pas avant.
Vu l'importance de la Pennsylvanie avec ses 19 grands électeurs, c'est un message que Kamala Harris va revenir délivrer dans l'État d'ici au 5 novembre. Guillaume Nodin, Wilkes-Barre, RFI.
Joe Biden, le président sortant des États-Unis, temporise sur l'éventuelle fourniture de missiles longue portée à l'Ukraine, réclamée par Volodymyr Zelensky. Pas de décision annoncée hier à l'issue de sa rencontre à la Maison-Blanche avec le Premier ministre britannique, Keir Starmer, qui s'est contenté de dire que les prochains mois et les prochaines semaines pourraient être décisif en Ukraine. La capitale Kiev a de nouveau été la cible ces dernières heures d'une attaque de drones russes. 72 des 76 drones lancés ont été interceptés par la défense aérienne ukrainienne. Un énorme scandale en Malaisie où les victimes sont des mineurs, des enfants âgés entre 1 an et 17 ans, plus de 400 victimes de violences physiques, psychologiques et sexuelles. Dans une vingtaine de foyers d'accueil, 170 personnes ont été arrêtées. Vincent Souriau.
La police malaisienne rapporte des cas de torture, des garçons brûlés à l'aide de cuillères bouillantes, des enfants malades mais privés de soins hospitaliers, des séances d'attouchement sexuel pendant de faux examens médicaux. Parmi les personnes interpellées, une majorité de femmes, des éducatrices, des directrices de centres, des surveillants de dortoirs, mais aussi des conseillers religieux censés inculquer la foi musulmane à ces mineurs scolarisés dans des institutions islamiques. À qui appartiennent ces foyers? Les autorités désignent un groupe commercial, le GISB, qui serait lié à une secte interdite. L'entreprise dément, promet de coopérer et dénonce une campagne de calomnie. Mais le scandale est tel que le Premier ministre en personne s'est emparé du dossier. Il demande une enquête urgente et approfondie.
Les narcotrafiquants s'entretuent au Mexique. 15 morts depuis le début de la semaine dans des affrontements au sein du cartel de Sinaloa, le cartel du célèbre El Chapo, au Pérou. Aujourd'hui, les funérailles nationales de l'ancien président Alberto Fujimori, malgré sa condamnation pour crime contre l'humanité. RFI, les midi 7 à Paris. On va maintenant parler de la rentrée parlementaire de l'extrême droite française. Le Rassemblement national, qui se voyait diriger le gouvernement en juin dernier à l'issue des législatives anticipées. Le parti de Marine Le Pen et Jordan Bardella n'est finalement que faiseur de roi. En l'occurrence, le soutien de Michel Barnier, Premier ministre de droite. Le RN entend jouer désormais les oppositions constructives, selon l'expression de celui qui pensait bien être Premier ministre, Jordan Bardella. Aurélien Devernois, vous êtes à l'Assemblée nationale où se réunissent les parlementaires RN, ceux qui siègent à l'Assemblée nationale, mais aussi ceux qui siègent au Parlement européen de Bruxelles. Ils sont tous venus écouter les objectifs fixés par les chefs.
Oui, et le ton est offensif depuis ce matin. Rien aujourd'hui ne peut se faire sans le RN ou contre le RN, a martelé Jordan Bardella. Et c'est sous un slogan intitulé « Préparons l'alternance » que le président du Rassemblement National s'exprime. L'objectif est clair, se montrer au travail en creusant par exemple son programme économique, mais aussi faire le tri dans des effectifs parfois problématiques du parti, avec l'ambition d'être cette fois totalement prêt lors de la prochaine échéance électorale que Marine Le Pen voit arriver dès 2025. La triple candidate à la présidentielle voit toutefois bien le piège dans lequel pourrait s'enfermer le RN avec le choix de ne pas censurer directement le futur gouvernement de Michel Barnier, celui d'entrer dans une sorte d'en même temps cher Emmanuel Macron, s'afficher comme la principale opposition du pays, tout en soutenant de fait la coalition gouvernementale. Il ne faut pas se laisser balloter par les flots, a averti Marine Le Pen, et bien garder les lignes rouges du RN en tête, immigration, sécurité, pouvoir d'achat. Et Jordan Bardella de lancer un avertissement à Michel Barnier, le Premier ministre est sous surveillance, et s'il veut éviter une censure, il ne faudra pas qu'il soit le collaborateur d'Emmanuel Macron.
Aurélien de Vernon en direct de l'Assemblée nationale à Paris. À Paris, encore une toute autre actualité cet après-midi. La grande parade post-JO. Les athlètes français des Jeux Olympiques et Paralympiques vont remonter les Champs-Élysées. Ce sera suivi d'une cérémonie de décoration par Emmanuel Macron et d'un grand concert dans la soirée Place de l'Étoile. Midi 10 à Paris, dans un instant sur RFI, Éco d'ici, Éco d'ailleurs.